Frères et sœurs, la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu sont sur vous. La vie en abondance, plus forte que la mort, que le désespoir, que la peur. Grâce sur grâce, sans condition du passé, de la foi, des convictions. Dieu vous bénit et vous accompagne avec tendresse. Merci à vous d'avoir fait place dans votre semaine, peut-être dans votre pont pour l'Ascension, pour venir ce matin pour ce temps de culte, afin de célébrer Dieu ensemble et de nous ouvrir à ses bons soins pour chacune et chacun de nous. Nous nous tournons vers Dieu avec notre soif de lui, avec le premier chant que vous trouverez sur la feuille, si vous avez la chance d'en avoir pu en attraper une, désolé pour les autres. Donc, tous ensemble, ô notre Dieu, nous cherchons ta face. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis à l'Éternel, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je peux être sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur, de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. L'Éternel fait pour nous ce projet. Je veux le libérer, le glorifier de longs jours. Je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. Alors je propose de poursuivre ensemble par le chant de ce psaume dont je viens de vous lire l'introduction. C'est le numéro 55 de notre psautier. C'est le psaume 111. De tout mon cœur, je louerai Dieu. Les trois strophes de ce psaume 111, numéro 55. Je vous propose de vous tourner vers Dieu, dans l'humilité pour lui demander son pardon et son aide. Alors c'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur cette prière d'Isaac de Ninive au 7e siècle. Mon Dieu, mon cœur est en peine. Donne-moi de rentrer en moi-même pour que de toute mon âme j'aille à ta recherche. Car sans toi, je suis privé de la source de tout bien. Ô Dieu bon, donne-moi ta grâce. Toi, Père dans l'éternité, tu as engendré le Christ. Crée et renouvelle en moi les formes de ton image. Quand je t'ai abandonné, tu ne m'abandonnes pas. Quand je me suis éloigné de toi, tu sors à ma recherche. Conduis-moi dans ton pâturage, moi, la brebis perdue, et nourris-nous de l'herbe fraîche de ta parole. Tu nous fais goûter ta consolation, ta douceur, ta vie, par ta grâce et par ton amour de l'humain. Gloire à toi, Père de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et nous poursuivons par cette prière, je vous propose de rester assis, tel que je suis, bien vacillant. Que chacun reçoive vraiment, directement au fond de lui-même, l'assurance de la bienveillance irréductible de Dieu à son égard. En effet, en Christ, Dieu se penche vers nous et nous dit « Lève-toi et va. Tes péchés ont déjà été pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Avance dans la paix. » Nous chantons à Dieu notre reconnaissance. À toi nos louanges, Christ ressuscité. Une fois pour toutes, nous dit saint Augustin, ce bref commandement nous est donné. Aime et fais tout ce que tu veux. Aie au fond de toi, au fond du cœur, la racine de l'amour. Et de cette racine, il ne peut sortir que du bien. En cela consiste l'amour. Dieu a fait paraître son amour pour nous en envoyant son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. C'est ce chemin de vie que nous espérons dans ce chant « Je veux t'aimer, ô toi qui m'aimes ». Quand on parle de passion du Christ, alors on pense à la croix. Oui, Mais je vous propose de nous intéresser ce matin aux passions du Christ, au pluriel. La colère, la déception, la tristesse, le trouble, les larmes, l'étonnement, la compassion, la joie, l'amitié, le désir ardent, l'impatience et même l'angoisse. En effet, Christ était donc un homme de passion. Alors pour nous introduire à cette réflexion, je vous propose de prendre dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 2, les versets 13 à 22. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, ainsi que les changeurs qui s'y étaient installés. Alors s'étant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, avec les brebis et les bœufs aussi. Il dispersa la monnaie des changeurs, il renversa leurs tables, et il dit aux marchands de colombes, « Ôtez tout cela d'ici, et ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit dans la Bible, « Le zèle de ta maison me dévore. » Mais les autorités judéennes prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Alors les Judéens lui dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi tu le relèverais en 3 jours ?» Mais lui parlait du temple de son corps. Aussi, lorsque Jésus se releva d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait parlé ainsi, et ils crurent à l'Écriture ainsi qu'à la parole qu'il avait dite. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à la force et à la bonté de ta parole, de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je vous propose de prendre le cantique 285. Nous voulons par nos cantiques te rendre gloire, ô Fils unique, pour nous permettre donc de méditer sur la personne et la vie de Jésus-Christ. 285, les 3 strophes.
Thank you.
On entend parfois dire que notre civilisation serait judéo-chrétienne. Alors je pense que c'est une erreur. Alors il est bien question de judéo-chrétiens à propos de personnes qui, dans les premiers siècles de notre ère, suivaient la loi juive tout en pensant que Jésus est le Christ, le Messie. Le représentant le plus connu était Jacques, le frère de Jésus. Mais ce courant a rapidement, finalement, été assimilé par la foule des pagano-chrétiens issus du monde grec. Il existe encore aujourd'hui des juifs messianiques, mais l'immense majorité des chrétiens ne suit pas la loi religieuse juive. Alors pourquoi cette expression de civilisation judéo-chrétienne ? À mon avis, c'est de la propagande politique, car ce n'est pas vrai, donc, pour les chrétiens. Ce n'est pas sympa pour les juifs, comme si on gommait leur spécificité en l'assimilant à des chrétiens. Et cela fait des personnes qui sont non-croyantes des sortes de sous-citoyens. Notre civilisation n'est donc pas, à mon avis, judéo-chrétienne. Il me semble qu'elle est biblico-gréco-latine, avec un enracinement important dans la Bible, même pour les non-croyants, évidemment. Les droits de l'homme, c'est finalement du jus d'évangile, avec un mode de pensée profondément inspiré par la pensée grecque et avec des lois inspirées par le droit romain. Et puis notre langue, elle provient en grande partie de la langue latine ou de la langue grecque. Donc ces trois racines que sont Jérusalem, Athènes et Rome s'interpellent mutuellement dans notre culture et cela ouvre un magnifique espace de liberté, de dialogue, de profondeur. Mais il vaut mieux que ce soit réfléchi afin que nous puissions choisir entre ces différentes racines quand il y a alternative. Et cela fait que bon nombre de nos façons de penser, donc, sont un héritage grec plutôt que biblique. C'est ainsi que dans notre culture, il est considéré comme inconvenant, particulièrement pour un homme mâle, de pleurer, par exemple. Cela ne se fait pas d'élever la voix avec colère. C'est considéré plus ou moins comme enfantin ou comme déséquilibré d'avoir des émotions et encore plus de les manifester en société, même si c'est des émotions tirées de notre spiritualité, de notre foi. Eh bien cela, c'est un héritage stoïcien. La Bible n'a pas ce préjugé. Elle ose montrer Dieu avoir de vives émotions, provoquant en lui des tensions internes avec, heureusement, l'amour qui l'emporte souvent. Comme par exemple dans ces paroles que l'on attribue à l'Éternel dans le prophète Osée. « Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues, mais je n'exécuterai pas l'ardeur de ma colère. » Du coup, la rumeur publique dans nos rues fait du Christ un doux Jésus tout à fait zen, sans affect, qui connaît une sorte de paix intérieure comme le miroir du lac quand il n'y a pas un souffle de vent. Ce Jésus imaginaire n'est pas celui de l'Évangile. Il répond plutôt au modèle d'un sage stoïcien ou d'un bonze bouddhiste. Alors il y a de bonnes choses, bien sûr, dans le stoïcisme. C'est passionnant, ça mérite d'être lu et étudié, mais sur ce point en particulier, il me semble préférable d'être plus biblique que grec. En effet, Jésus, il vit intensément sa vie, avec des émotions parfois violentes, parfois bouleversantes, et il en fait quelque chose d'absolument magnifique. En effet, dans les évangiles, nous voyons Jésus être pris par la colère et la déception pas moins de 9 épisodes, par la tristesse et par le trouble 5 épisodes, par les larmes et par les sanglots, 2 fois, par un étonnement qui le bouleverse, le fait changer de trajectoire, 3 épisodes, par une explosion de joie, 5 épisodes, par une subite prise en affection, 5 épisodes, ou par l'impatience de que ce qu'il espère puisse enfin arriver, 2 épisodes. Et donc, quand on parle de la passion du Christ, on pense à la croix, bien sûr, et qui débouche sur la résurrection. Mais on pourrait parler des passions du Christ. Et effectivement, elles sont également source de résurrection, de vie incandescente. Alors le Christ nous autorise et il nous appelle à ne pas étouffer nos émotions. Elles sont la vie et par elles nous sommes véritablement présents dans notre monde. Elles nous mettent en relation avec les habitants de ce monde. Par elles nous recevons une énergie vitale nous permettant d'avoir de très belles impulsions, de très beaux cheminements de vie, de faire de belles choses. Mais comment le Christ transforme-t-il l'énergie brute de ses passions en un miracle qui est source de vie? Le philosophe juif Baruch Spinoza remarque, à juste titre, que nous sommes esclaves de nos passions, de nos affects, de nos sentiments, que nous sommes impuissants à les gouverner et à les contenir. Et il nous fait cette proposition, finalement. Proposition célèbre, à juste titre. Un affect ne peut être réprimé ni ôté que par un affect contraire plus fort. Si donc nous avons une addiction, si nous avons une passion, comme la haine, comme la colère, comme le dégoût de soi, par exemple, ou bien même l'envie de tirer une cigarette, par exemple, de sa poche. Eh bien, pour convertir ces forces, ces impulsions qui nous gouvernent, il faut une contre-force positive d'une plus grande puissance. La seule pensée ne suffit pas, à moins qu'elle ne se transforme elle-même en passion. Alors, c'est ce que l'on voit, à mon avis, dans cet épisode de Jésus chassant les marchands du temple. En effet, les disciples de Jésus observent dans cet épisode, après ces faits, ils disent « Le zèle de ta maison me dévore ». C'est ce qu'ils analysent en voyant ce surprenant et libre Jésus agissant au début de son ministère. Le zèle, c'est l'affect supérieur dont parlait Spinoza. Ce zèle de Jésus, il l'explique en quelques mots dans ce récit. C'est la passion pour le fait que la maison de Dieu est notre corps, que Dieu est en nous, cœur à cœur avec nous, avec cette puissance de l'Esprit. Pour Jésus, la foi n'est pas croire en ceci ou en cela, ce n'est pas tel ou tel rite. La foi, c'est une puissance, celle de Dieu en nous, qui guérit, qui remet sur pied le paralysé, qui ouvre les yeux de l'aveugle, qui ressuscite un mort. La foi est pour Jésus une passion immensément puissante. Elle transporte les montagnes, nous dit Jésus. Elle convertit nos passions. Ce zèle dévore donc nos passions tristes, comme le dirait Spinoza. Comme nous digérons des nouilles pour en faire une bonne énergie, nous rendant capables de grandir, pour quelques-uns, quelques-unes, pour moi c'est un peu plus limite, ou bien pour transformer donc notre énergie, me rendant capable d'avancer et d'agir d'une belle façon. Le zèle de la foi du Christ dévore ce petit moi étriqué comme une chenille qui refuserait à tout prix de devenir papillon. Si l'on prend la grille de lecture donc que Jésus nous apporte ici et que les disciples comprendront plus tard, le temple qui importe n'est pas le bâtiment à Jérusalem qui n'est qu'un objet parmi tous les autres objets du monde. Le temple qui importe, c'est notre corps, notre âme où Dieu est présent. Les marchands du temple, c'est alors nos petites passions calculatrices qui attendent une récompense, nos aliénations, notre ego qui fait du troc. Je t'aime afin que tu m'aimes. Je fais le bien pour être reconnu. Je prie pour que Dieu me bénisse. Je me fais chrétien pour avoir la vie éternelle. Ce commerce, c'est la logique de l'intérêt personnel finalement, même avec Dieu, même avec nos proches. Il ne suffit pas de comprendre à quel point c'est nocif. La question est d'arriver à changer notre logique interne, à changer le logiciel. Et pour cela, il faut, comme le dit Spinoza, je pense, une force puissante, comme pour Jésus ici, avec son zèle pour Dieu en lui. Cette passion permettant de déplacer la montagne de nos passions, pas de les détruire, sinon nous deviendrions une sorte de zombie apathique, mais de les convertir, ces passions, en bonne impulsion de vie. Alors c'est ce que le Christ nous propose dans un autre passage de l'Évangile. Il nous dit ce secret finalement. Si quelqu'un veut avancer à ma suite comme lui, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alors nous pouvons lire notre croix comme ces passions, ces forces que nous subissons et qui nous aliènent, peut-être qui nous abattent à terre, peut-être qui nous tuent même. Prendre notre croix, c'est regarder en face ce qui nous mène par le bout du nez, ce qui nous cloue, ce qui nous enchaîne, ce qui nous fait souffrir. Ce sont nos passions tristes, comme Spinoza les appelle, la peur et les faux espoirs, la haine, l'envie, la colère, la culpabilité, le sentiment d'être indigne, la pitié qui n'agit pas, la joie méchante du malheur de l'autre. Alors il est bon de renoncer bien sûr à ces dimensions de nous-mêmes, ne pas se complaire dans ce moi aliéné, égoïste, étriqué, désespéré. Ce n'est bien entendu pas une destruction de notre être que nous propose Jésus en disant « prenez votre croix », mais une libération de notre moi vivant et sensible. Alors comment faire ? En faisant face donc à ces passions, et puis en suivant le Christ, c'est-à-dire en étant passionnés nous-mêmes, passionnés par sa façon d'aimer, passionnés par sa foi et son attachement à la fidélité de Dieu pour nous. Nos passions sont alors transformées, nos croix peuvent devenir résurrection. C'est ce dont témoigne l'apôtre Paul lui-même, qu'il a vécu par la foi, par son expérience vive du Christ. Il nous dit « L'amour du Christ nous presse ». Littéralement, l'amour du Christ nous passionne. C'est une passion qui nous emmène. Cet amour qui anime Jésus est une passion plus puissante que tous nos démons. C'est ainsi que quand le Christ ressent de la colère, par exemple contre des personnes méchantes, alors il y a les théologiens qui refusaient qu'il guérisse quelqu'un le jour du sabbat. Il y a même ses disciples qui empêchaient les quémandeurs d'aide de s'approcher de Jésus. Alors Jésus est donc en colère. Et il nous dit que bien souvent, l'Évangile nous montre que bien souvent, sa colère devient en fait une tristesse de voir que la méchanceté s'est emparée de ces personnes, qui sont bien mieux que ce qu'elles pourraient sembler avec leur méchanceté. Et puis cette tristesse de Jésus devient volonté de leur venir en aide à ces personnes aussi qui sont prisonnières de ces passions mauvaises. C'est ainsi que quand le Christ se laisse surprendre, par exemple par une foi qu'il n'attendait pas, qui le surprend. C'est le cas, par exemple, quand il rencontre un centurion, bien sûr, même pas monothéiste, mais dont vraiment la foi l'épate, ou bien une femme étrangère qui quémande une aide pour son enfant. Eh bien, Jésus se laisse surprendre, étonner. C'est le signe d'une vraie rencontre. Et Jésus se laisse alors déplacer, lui aussi. Il s'émerveille et il le dit publiquement. Et ça le porte à la louange. C'est ainsi que, quand il a un sentiment d'affection qui le prend, comme par surprise là aussi, cela lui arrive plusieurs fois. Eh bien, Jésus dit qu'il en est physiquement remué, qu'il est pris aux tripes. Il ne manque pas alors d'agir d'une façon remarquablement créative, novatrice, féconde. Oui, cet amour du Christ nous presse. Il transforme nos passions en élan de vie. Amen.
Intercédons auprès de Dieu. Dieu juste et miséricordieux, nous te remercions de nous avoir donné l'Église comme mère spirituelle, qui nous a offert le cadeau de ta parole de vie, du baptême et de la Sainte Cène. Renouvelle ton Église, ramène-la toujours à ta parole et à ta mission. Préserve-la de la tentation de vouloir s'isoler du monde et de se suffire à elle-même, mais aussi de la tentation de vouloir céder à l'esprit éphémère de notre temps. Que ses membres continuent à être la lumière du monde et le sel de la terre. Donne-leur l'intelligence de trouver les mots justes pour notre temps et d'annoncer l'Évangile du Christ avec courage et assurance. Nous te prions pour notre communauté au sein de laquelle nous essayons de cerner le mystère insondable de ta grâce et d'accueillir ta bonté. Nous te prions pour elle et pour toutes les églises de notre pays, mais aussi pour toutes les autres confessions chrétiennes du monde entier et au-delà pour tous les êtres humains de bonne volonté, afin que tu continues de les bénir. Nous te prions pour les parents, afin qu'ils accomplissent avec discernement leurs tâches éducatives et qu'ils favorisent un esprit de valorisation et d'encouragement. Nous te prions pour les maîtres et les professeurs de nos institutions de formation, afin qu'ils éveillent chez leurs élèves le sens de la responsabilité, le respect mutuel, la gratitude et le goût de l'effort pour le bien commun. Nous te prions pour notre pays, pour celles et ceux qui assument des responsabilités de gouvernance, afin qu'ils exercent ce mandat dans un esprit de concorde et dans la poursuite du bien commun. Mais aussi pour nous tous et toutes, concitoyennes et concitoyens, afin que nous poursuivions sur la voie de la justice et de la paix. Nous te prions pour celles et ceux qui font aujourd'hui face au deuil, à la séparation, à la mort, qui ne se laissent pas engloutir par la solitude et le désespoir, et que nous les accompagnions avec respect, attention et amour. Dieu juste et miséricordieux, accueille nos prières. En communion avec toutes les églises chrétiennes du monde entier, je vous invite maintenant à prononcer la prière que Jésus a donnée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Grand merci, Andreas, pour cette prière qui est inspirante pour bien des domaines, bien des sujets, qui nous permet de penser donc les uns aux autres dans la confiance en notre Dieu. Grand merci à Vincent à l'orgue, avec ce pauvre orgue, avec un seul clavier, dont tu tires des miracles, en attendant de réentendre nos grandes orgues. Voilà, avec plaisir, c'est la semaine prochaine, je pense qu'on aura plaisir à les entendre. On a mis sur l'annonce, la feuille, l'annonce donc de cette dédicace des grandes orgues et puis aussi un concert que tu nous prépares. Grand merci aux conseillers et aux gardiens de Saint-Prière d'avoir tout préparé. Grand merci à vous toutes et à vous tous d'être venus, d'avoir participé à ce culte. Je salue en particulier une paroisse des Grisons, donc, qui est venue nous rendre visite. Alors désolé, je ne parle ni Swissdeutsch ni le Grischun, donc je parle simplement la pauvre langue de France et de Genève, de Suisse romande. Je vous propose de nous unir dans le cantique numéro 370 du cœur et de la voix, rendons à Dieu la gloire. Pendant le chant de ce cantique, eh bien, nos conseillers recueilleront nos offrandes. C'est une façon de remettre les choses en perspective dans notre existence avec l'esprit gouvernant le corps. Donc 370, le chant des trois strophes. Donc on se réjouit d'une belle assistance ce matin. Donc c'est vrai que ça prend un peu plus de temps de procéder à l'offrande que de chanter trois strophes de ce cantique. Donc nous avons un petit moment de méditation offert. Et puis nous allons pouvoir recevoir la bénédiction de Dieu. Bénédiction donnée au singulier, selon les paroles de Moïse, pour dire que c'est individuellement que chacune et chacun est béni par Dieu. Et puis c'est dit à l'affirmatif, non pas donc comme si c'était un ordre que nous donnions à Dieu de bénir les fidèles de cette paroisse. L'Éternel te bénit et il te garde. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et il t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et il te donne sa paix. Alors oui, demeure par ta grâce avec nous, ô Dieu, source de vie. Amen.